Mon cher Jordan, comment tu vas? C'est notre dernière à nous deux.
Mais je suis un peu triste. Honnêtement, j'ai un petit quelque chose, j'ai un pincement.
Mais ça a passé vite, hein?
Je sais, c'est comme un coït interrompu. Je dirais ça.
Tu peux dire ça comme ça. Écoute, ouais. Les recherchistes n'arrêtent pas de dire une petite vite. Lâchez-moi un peu, là.
Non, mais c'est vrai, on a créé quelque chose, une belle chimie. Les gens sont au rendez-vous.
C'est ça que les gens se rendent pas toujours compte, c'est qu'il y a une chimie où il n'y en a pas. Entre deux êtres humains, puis quand on se parle, puis quand on se voit, il y a une chimie qui se crée.
Vraiment.
C'est automatique. On ne peut pas en sortir indemne. C'est une rencontre. Puis c'est très chouette, ça. C'est une belle chose.
Tu me rends émotionnel au micro.
Tu l'es toujours.
Je le sais, mais particulièrement aujourd'hui. Et sache que ça a été vraiment un honneur, si je n'ai pas le temps de te le dire à la fin de la chronique, parce qu'on finit toujours sur une fesse. Mais reste que ça a été un honneur de partager cet été avec toi tous les jours. Ça a été une expérience extraordinaire et t'as fait de la main bonne job, mon Dan.
Ben, t'es bien fait, mon Jean.
Voilà.
Alors, de quoi tu nous parles?
Bon, ben, dans la catégorie, on ne l'a pas vu venir. Et ça, c'est sorti hier. Merci d'ailleurs, Valérie, notre chercheuse, qui m'a proposé ce sujet-là que je pensais au début que c'était une blague. Un festival Pokémon Go débarque à Montréal. Donc, première question, qui joue encore à Pokémon Go?
Qui cherche les maudits Pokémon un peu partout, là?
Exactement. Donc ça a été, pour ceux qui s'en rappellent, ça a été la folie furieuse en 2016 lorsque l'application est sortie. Donc, c'était un jeu interactif où on chassait les Pokémon.
Oui, puis c'était même dangereux des fois parce qu'on est dans des endroits pas d'allure.
Mais
ton Pokémon dans une cage de tigre au zoo change de jeu.
Exactement. Et je vais te revenir avec quelques statistiques vraiment troublantes sur Pokémon Go. Ceci étant dit, qui joue encore à ça? Eh bien, il y a le petit Micha qui joue encore à ça probablement avec sa chanson « I play Pokémon Go every day » vue plus de 79 millions de fois. Dan, donc une petite surprise pour toi.
I play Pokémon Go every day. Pokémon Go.
Donc, il joue à Pokémon Go, le petit Micha.
Oui, mais ça, c'est comme la toune Baby Shark.
Oui, c'est ça.
Ça ne veut plus sortir de la tête.
Écoute,
excuse-moi, personnellement, la bonne chose de Pokémon, c'est que c'était une mode, puis une mode, ça passe.
Eh bien, sache que ça ne passera pas tant que ça, parce que Tourisme Montréal a annoncé mercredi que le festival Pokémon Go Safari, rien de moins, Safari Zone, se tiendra du 20 au 22 septembre de cette année au parc Jean-Drapeau. À l'été 2018, là, il y a eu ce genre d'événement-là à Chicago, à Yokosuda au Japon et à Dortmund en Allemagne. Et il y a eu à peu près 400 000 personnes. Alors, l'événement...
Ben, qui s'amuse.
Ben, qui a du fun entre eux.
C'est moi qui ai donné, mais écoute, le monde fait très bien.
Écoute-moi, la vie a continué depuis 2016. Donc, l'événement planétaire est organisé par un gros leader mondial en matière de réalité augmentée qui s'appelle Niantic. Donc, ceux qui suivent Pokémon Go, ça fonctionne encore très bien. Et Valérie Plante s'est exprimée à TVA, justement, en disant que c'est un événement d'envergure qui risque d'avoir de réelles retombées économiques. Et il y a des gens de partout qui vont venir participer à cet événement-là. Et c'était normal que Montréal soit l'hôte de ce Pokémon Go Safari Zone parce qu'on est une plaque tournante.
À condition qu'on ne cherche pas des maudits Pokémon dans le trafic.
Exactement.
Style.
Et là, j'ai quelques chiffres vraiment croustillants pour toi. Es-tu prêt? C'est en rafale.
Croustillant, j'aime ça, des chiffres croustillants.
Voilà, donc Pokémon Go a brisé tous les records avec 207 millions de revenus dans le premier mois et c'est 100 millions que ça a généré dans les premiers 20 jours de sa sortie. Donc, imagine ceux qui ont décidé d'investir dans cette application-là.
Oui, eux autres sont très heureux.
Exactement, j'imagine. On va investir dans une application un peu louche. Parfait, je mets ma pièce. On a raté encore une fois notre
Oh oui, moi...
une coupe de pas qu'on a raté.
J'ai pas le flair de l'investisseur.
Non, c'est ça. Durant les trois premiers mois de Pokémon Go, c'était 45% de tout le temps joué en ligne sur toutes les applications Android qui étaient consacrées à ce jeu-là. C'est 500 millions de téléchargements dans les trois premiers mois. Dans son apogée, là, c'était 28,5 millions de joueurs de façon quotidienne et 45 millions d'utilisateurs à l'été 2016. Et en avril 2017, c'est là que la drop a pogné. 5 millions de joueurs. Donc, il y a vraiment eu un buzz et un débuzz. Ceci étant dit, en 2018, en septembre, ils ont relancé quelques trucs un petit peu plus d'interaction avec les joueurs sur l'application. Il y a eu un petit regain. 60% des utilisateurs de Pokémon Go ont 18 à 34 ans, donc je suis surpris. Et 43%, ce sont des femmes. Moi, j'étais à Bordeaux en 2016 lorsque Pokémon Go...
Tu parles la ville ou tu parles la prison? Ouais, char de Bordeaux. Ah ouais, moi j'arrive de Marseille, merci.
Non, j'étais avec un verre de vin à Bordeaux. Donc la ville okay. Et il y a des gens et c'était la folie partout et personne, je comprenais pas, il y avait des gens partout, puis je suis comme on regarde pas les attractions, je comprends pas. C'était des joueurs de Pokémon Go, c'était la folie furieuse et moi j'étais un peu off de la sortie de Pokémon Go, j'étais en voyage. Donc ceci étant dit, ça a vraiment été planétaire. Pokémon Go, savais-tu ça, les gens ont tellement marché Dan que ça donne l'équivalent de 8,7 milliards de kilomètres et ça nous permettrait d'atteindre la fin du système solaire.
OK, c'est pour ça que j'aime pas ça. Moi.
En marchant, en chassant des
pokés. Ben, je vais faire du vélo, je vais aller marcher, les grandes marches. Je suis pas...
Mais c'est encore à ce jour une des applications les plus lucratives.
C'est complètement fou, hein?
Hein?
C'est complètement fou.
C'est fou, c'est 200 000 $ par jour.
C'est irréel, ça rentre même pas.
200 000 $ par jour qui gagnent les créateurs de Pokémon Go. Et, évidemment, tu l'as mentionné, il y a eu des grandes tristesses, donc des morts. Et je suis allé faire un tour sur le Pokémon Go Debt Tracker, donc un site web qui recense les morts de Pokémon Go. Est-il à jour, est-il pas à jour? J'ose espérer que oui, mais c'est tout à fait loufoque et absurde et extrêmement tragique. Donc, jusqu'à maintenant, on est rendu à 18 morts et 60 blessés pour ce qui est du site Pokémon Go Debt Tracker. Le dernier, 21 juin 2019, donc c'est tout récent, un homme de 43 ans est arrêté et décédé après une bataille concernant un Pokémon que deux personnes voulaient chasser en même temps. En tout cas. Et pour ce qui est des
États-Unis... Ils se sont battus pour un Pokémon. Est-ce que les gens se rappellent d'une... ça s'appelle un jeu. J-E-U, jeu.
Ouais, ben ça...
Il y en a qui prennent ça, c'est leur fortune.
Un petit peu trop à cœur. Et je termine en vous disant qu'aux États-Unis, il y a l'université Purdue Universities, qui, le département de management, qui a fait une étude et c'est 7,3 milliards de dommages que les assurances ont réclamés à cause de Pokémon Go, que ce soit des accidents de voiture, des blessures, etc., etc. Donc...
Les actuaires vont se faire aller.
Encore une fois, on a raté notre carrière. Alors voilà, c'était quelques statistiques croustillantes sur Pokémon Go. Et je vous rappelle que ceux qui jouent encore, on ne vous juge pas, on tente de comprendre. C'est du 20 au 22 septembre au Parc Jean Drapeau pour ce méga festival de joueurs de Pokémon Go. Sinon, ça, je pense que ça va être là.
Hein? Tout le studio est en train de danser, t'as rendu tout le monde fou encore.
Et comme on sait que tu ne danses pas, il y a de fortes chances que tu ne sois pas à
l'île Sonic.
Je danse,
mais juste du haut du corps, c'est lettre.
Ouais, mais là, à l'île Sonic, tu vas avoir besoin de tes deux
pattes. Quand je joue du piano, c'est pas pire, ça paraît pas.
C'est vrai, parce que tu peux jouer de la pédale, c'est ça, exactement. Donc, île Sonic, c'est ce week-end, 6e édition, c'est l'équivalent, c'est un peu l'Oceaga de la musique électronique. Donc, ceux qui trippent vraiment sur la musique électronique, c'est 4 scènes, bass, hip-hop urbain, EDM, donc musique mainstream électronique. Techno, c'est 65 000 visiteurs et danseurs à chaque année. C'est beaucoup de personnes. C'est 53 artistes et DJ. Je les ai comptés là, sur le site. C'est énorme. C'est des très, très, très gros noms. Donc, comme par exemple Nicole Moudaberg, Lil Pump. Il y a un peu de hip-hop là-dedans. Ceux qui connaissent la scène de musique électronique sont extrêmement impressionnés par la programmation. Île Sonic, là, c'est quand même impressionnant comme festival. C'est Evenco qui produit ça. C'est vraiment 25 % des festivaliers qui viennent de l'extérieur du Québec. On parle du Brésil, de l'Australie, de la France, de l'Allemagne, le Mexique, le Maroc.
Les petits parties, tu connais pas ça, toi?
Non. Et ça, c'est
ça. Ça t'intéresse pas.
Ben, ça m'intéresse, mais là, 65 000 personnes, moi, j'avoue qu'il y a une petite crise d'anxiété peut-être qui va me prendre sur le...
Un petit peu d'agoraphobie.
Oui, c'est ça, sur le plancher de danse en plein milieu. Donc, c'est vraiment un événement électronique de renommée internationale qui attire beaucoup de gens. Donc, pour ceux qui trippent électronique, ben, c'est 210 $ pour la passe du week-end ou 110 $ par jour. Voilà. Sinon, je termine cette dernière chronique avec toi, avec un sujet dont tu avais envie que je te parle. Et moi aussi, parce que je trouve ça très pertinent.
Parce que tu m'en as parlé la première fois. Ouais. Je suis content que tu le fasses une fois avant de partir.
Ouais, parce que c'est un peu kinky, mais c'est surtout fort intéressant. Et j'ouvre avec celle-ci pour vous être
démontré.
Donc, ceux qui ont vu...
Qu'on le sache, là, pendant quelques minutes, c'est le virage kinky de 98.5.
Oui, c'est ça. Donc, attachez vos oreilles avec la broche. Non, ceci, on blague, là, mais c'est fort intéressant parce que c'est un événement quand même d'envergure. Donc, c'était Lady Gaga, Born This Way, parce que ceux qui ont regardé ce vidéoclip et toute, finalement, la pop américaine, en ce moment, que ce soit la robe en latex de Kim Kardashian ou que ce soit les vidéoclips de Lady Gaga, Madonna, Ariana Grande, Rihanna, peu importe, toute cette esthétique pop enveloppe-là comporte énormément de références à la culture fétiche, latex, BDSM, bondage. Donc, c'est vraiment devenu quelque chose qui est extrêmement mainstream et populaire. Mais finalement, il y a une réelle communauté qui vit derrière ça et qui fait des pieds et des mains pour être reconnue et surtout pour avoir la visibilité qu'elle mérite.
On a beaucoup de préjugés, mais moi, je déteste tout ce qui est sexuel et qui fait des victimes. En dehors de ça,
ouais,
c'est pas mes oignons, c'est chacun ses affaires. Et j'ai rencontré un couple de sado-maso que je vois encore de temps en temps. Mais je te jure, devinez c'est lequel le sado puis le maso, ça marche pas comme ça.
Ouais, exactement.
Y a des clichés qu'il faut briser. Là.
Exactement. Puis là, j'y arrive en fait parce que c'est le Montréal Fetish Weekend, donc c'est ma porte d'entrée pour vous en parler. Donc c'est un événement vraiment d'envergure. Montréal étant une plaque tournante en termes d'esthétique latex, BDSM, bandage, etc. C'est du 28 août au 3 septembre. Je vous le dis tout de suite parce que les billets partent très vite. C'est à peu près 10 000 personnes comme communauté active à Montréal. C'est la 15e édition. Donc, c'est un événement vraiment intéressant. Et moi, j'ai eu, dans le cadre de mon travail, eu la chance d'avoir un accès...
Oh, tu spécifies dans ton travail.
Dans le cadre de mon travail, voilà.
Ouais, bien sûr. J'ai fait de la recherche, mais comprenez-vous, c'est pour le
la
travail.
La recherche terrain, voilà. Ouais. Donc, l'an dernier, je suis allé voir un spectacle de bandage japonais. Donc, Miss Ibiki, qui est une méga vedette de bandage japonais. C'est l'art des cordes, hein, du cordage. C'était au cabaret Cléopâtre, un événement extraordinaire, hautement esthétique. Il y a aussi, j'ai eu la chance de visiter pour C'est quoi, en fait, notre station sœur, le plus gros donjon BDSM du Québec. Et je dois dire que j'ai été complètement abasourdi à quel point ils ont défait mes préjugés. Premièrement, dans ces événements-là, et là, c'est un angle un petit peu plus sociétal, événement, il n'y a aucun alcool qui est consommé parce qu'évidemment, en termes de consentement, tu dois avoir tout ça bien
toutes
éclairé.
Toutes tes facultés bien éclairées.
Exactement. Oui. Tu ne peux pas toucher, aborder, faire la bise, frôler quelqu'un sans un consentement. Il y a des codes à respecter. C'est vraiment, honnêtement...
Il y a un code quand tu veux plus, non? Ben oui. Tout le monde a une espèce de couleur, passe, ça va nope, je sais pas, n'importe quoi.
Je pense que c'est toi qui le détermine avec ton partenaire. Ceci étant dit, j'ai été vraiment, vraiment surpris à quel point il y a une légèreté dans ces événements-là. C'est extrêmement festif, c'est des créations de latex et de PVC, de designer, donc c'est des vêtements qui coûtent extrêmement cher.
C'est artistique.
C'est super artistique et honnêtement, il y a plus de consentement et de respect dans la scène bandage que dans un bar sur Saint-Laurent à 3h du matin, je te le confirme.
Ben, donc, il y a plusieurs...
Ben oui, c'est ça. Donc, il y a plusieurs événements. Il y a un gros défilé de mode qui est très cool, dont Elisabeth Blouin-Bratwitt, la fille de Normand, va participer en tant que modèle.
Je travaille souvent avec. Elle joue sur tous mes shows du refuge. C'est une percussionniste de l'enfer.
Vraiment.
Moi, j'en connais deux. Je connais Sheila E. puis Babi. Enfin, Elisabeth Boulou. Moi, j'appelle Babi tout le temps.
Mais écoute, elle est extrêmement impliquée dans la communauté, dans la marginalité. Donc, elle défilera. Donc, il y a un énorme, durant du 28 au 3, donc un énorme défilé de mode latex PVC cuir sur Sainte-Catherine, en plein cœur du village. Donc, c'est plein d'événements pour ceux qui sont soit curieux ou qui veulent simplement assister à ce genre d'événements-là. Il y a des bals masqués. Il y a plein d'affaires. Et donc voilà, c'est un événement qui passe sous silence à Montréal, mais qui honnêtement nous met sa main pour tout plein de raisons.
Moi, je te remercie d'avoir fait cette chronique-là. Elle m'intéresse prodigieusement. Je trouve ça fantastique qu'on puisse parler par la radio. T'es bien fait de l'avoir fait.
Ben, parfait, c'est ton petit cadeau de la fin.
Ben, t'es bien gentil d'avoir pensé à moi comme ça. J'ai fait moins de recherches terrain, mais là, je me sens un peu moins niaiseux.
Ben, écoute, je peux t'arranger ça. J'ai quelques téléphones à faire, puis c'est fait.
Oui, non, une pomme dans ma bouche, ça marche pas. Ça, j'ai pas l'image dans la tête, je suis désolé. Merci, mon cher Jordan. C'est notre dernière ensemble, mais le Québec est très petit. On va se recroiser.
Je n'en doute point.
Et tout le monde, restez là. Au retour, un combat de boxe entre Hugo Girard, notre homme fort du Québec, qui est très connu, et Patrick Côté, ancien champion MMA qui s'est battu au UFC. Ça va brasser, mais pour une bonne cause après la pause.